Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour commencer merveilleusement bien cette année 2024 avec notre équipe de choc. Bonjour les filles.
Bonjour Tiffen.
Coucou les filles, bonne année.
Et bonne année.
Bonne et heureuse année, eh bien oui,
oui
bien
la
sûr.
Santé, la joie, le
la
bonheur,
humeur,
les amis,
la
l'amour.
Chaleur.
Tout quoi.
Bah tout, hein, tout. Tant qu'à faire. Vous et... avez passé des bonnes vacances d'été, des bonnes fêtes?
Oh oui, moi elles se sont merveilleusement déroulées avec une fabuleuse amie que je n'avais plus vue depuis très longtemps, fabuleuse amie qui s'appelle Gastro-entérite.
Ah, sympa, sympa.
Ouais, franchement, c'est, on a passé une superbe semaine. Franchement, elle est restée avec moi tout le temps.
Courage à tous ceux qui côtoient cette amie, parce qu'en ce moment, je sais qu'il y en a d'autres que toi.
Il y a un sacré virus qui tourne, ouais.
Et vous alors?
On va peut-être parler de choses plus sympas, parce que oui. La gastro, ça fera pas une émission entière, je pense. Bah. Du coup, je commence?
Eh ben, vas-y, je te laisse commencer.
Bah, c'est la rentrée, donc c'est la rentrée de théâtre aussi. Alors... aujourd'hui, j'ai parlé un petit peu de théâtre, mais très vite, vous allez comprendre pourquoi je vais switcher à la littérature comme Pascal, parce que j'ai un invité surprise que je vais présenter juste après. Je vous parle d'abord de théâtre. Donc, il y a le seul en scène de notre chère Indira Lacour, que pour ceux
Chantal
qui nous
Latsou.
Écoutent depuis un moment, voilà notre Chantal Latsou, qui imite très bien Chantal Latsou, qui était venue une fois parler d'un autre spectacle, de son travail en général, je ne sais plus exactement.
Mais avec toi?
Oui, c'était avec moi. Et... ah oui, c'était
bah
notre
oui,
pièce.
C'était
mais
la
oui,
pièce.
Bien sûr, c'était... ah oui, quand je joue dedans, j'oublie.
Ah, tu vois, je te le rappelle. Je suis là pour ça.
C'est ça. Merci, merci Vanessa. Donc là, cette fois-ci, elle revient avec un seul en scène. Moi, je l'ai rencontrée. Indira, elle faisait un seul en scène quand elle avait la trentaine, qui s'appelait Trentenaire à vif. Et là, elle a écrit Quarantenaire et tout est à refaire. Donc elle reste dans cette veine-là. Tous les 10 ans, elle va nous faire un spectacle. On verra les 50 ans.
Le bilan des 10 ans.
Mais le trentenaire le trentenaire à vif était très drôle. Alors le quarantenaire et tout est à refaire, que j'ai vu déjà, mais qui a à nouveau évolué parce que moi, j'ai vu la toute première bouture. Elle avait encore montré à personne. Et là, elle travaille encore dessus. Et donc, elle joue le 20 janvier à 20h30. C'est un samedi. Et c'est à la Péniche Didascali. Est-ce que vous êtes déjà allées dans ce lieu, les filles?
Alors, je connais le lieu, mais j'y suis jamais allée.
J'imagine que c'est une péniche.
Et exactement, exactement, Tiffaine, tu es d'une perspicacité.
Ah non, mais on me le dit toujours.
Et du coup, c'est une péniche qui est à Port-Sud, à Ramonville. Et c'est un petit lieu. Moi, j'y ai joué des spectacles pour enfants à l'époque. Et là, ça a été racheté par d'autres propriétaires que je ne connais pas encore. Donc, c'est l'occasion de retourner... faire un tour dans cette jolie péniche. Donc, ils font des spectacles pour enfants, je crois, à nouveau, et pour adultes, dont Indira Lacour. Donc, le samedi 20 à Port-Sud. N'hésitez pas à réserver sur leur site pénichedidascalie.com. Voilà, il y a ça en premier. Pour les spectacles pour enfants, je peux en parler vite fait. À la Roseraie, moi, je suis de retour avec un spectacle bilingue qui s'appelle « Me encanta la fiesta ».
Oh là !
Bon, c'est pas moi qui joue l'espagnol, c'est ma collègue, vous inquiétez pas, il y aura un meilleur accent. Parce que ma collègue est chilienne, donc c'est un petit spectacle pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans à peu près. On peut venir avec les grands frères, les grandes sœurs quand on a des bébés. Et c'est l'histoire de deux voisines. L'une est chilienne, l'autre est française. Et la chilienne vient d'arriver en France, elle connaît encore personne. Et elle se rend compte que toutes les deux, qu'elles sont nées le même jour, c'est leur anniversaire. Sauf que la chilienne, elle a pas encore d'amis en France. Et la petite française, elle va pas la laisser toute seule. Alors elle va l'inviter et de fil en aiguille, elles vont se retrouver avec plein d'amis de tous les pays du monde pour faire la fête, envoyer des confettis, des bulles, toutes les petites choses un peu visuelles qui plaisent en général aux enfants. Voilà.
C'est quand? Rappelle-moi.
C'est le même week-end, sauf que c'est le matin, donc on peut vraiment faire les deux. C'est le samedi 20 janvier et le dimanche 21. À 10h30 le matin à la Comédie de la Roseraie. Donc, on peut faire vraiment le matin le spectacle pour enfants. Ensuite, on les fait garder le soir et on va voir Indira Lacour à la Péniche Didascalie.
Juste une question. Est-ce que ça fait partie du festival Yay Cuba ou pas du tout?
Pas du tout.
OK.
Non.
D'accord.
C'est un festival dont tu vas nous parler peut-être?
Pas du tout. C'est juste une question.
Je ne connais pas ce festival. Mais non, voilà, ça c'est la partie théâtre. Et bien sûr, il y a plein de choses. N'hésitez pas à aller voir le Studio 55. Nous, on y fait le dîner, mais il y a plein de choses. J'en parlerai la prochaine fois parce qu'il y a trop de choses. Et là, j'ai un invité à côté de moi qui est quand même fameux et qui s'appelle Frédéric Thor. Salut Frédéric.
Salut.
Frédéric, alors on s'est rencontrés sur un tournage, nous, d'une publicité pour Naf-Naf, on peut dire la marque.
Oui, on peut dire la marque, surtout maintenant qu'elle a fermé.
C'est vrai, ça a fermé. Oh mince.
Ça a fermé.
Bon, mais c'est pas à cause de notre pub,
non,
hein, on
c'est
vous jure.
C'est pas à cause de notre pub.
C'était une pub assez marrante pendant le confinement, une pub presque un peu court-métrage finalement.
Oui, enfin, c'était ça, ouais.
Il y avait une histoire, on était confinés, puis on sortait pour... Tu avais participé au scénario ?
Oui, bah ouais.
On sortait pour...
Pour aller braquer un magasin naf-naf.
Voilà. Donc de nuit, en
plein
confinement.
Parce que vous en aviez marre d'être habillé en pyjama.
Exactement. Je vous montrerai la pub si vous êtes sage.
C'est une raison suffisante.
Ouais, c'est une pub
bien la voir. Hein.
2 minutes 30, elle est super sympa.
Elle est marrante. Et il y a Camille Dintrans aussi dedans, ouais, qui est une comédienne des 3T. Frédéric a plein de cordes à son arc puisqu'il est également auteur de plusieurs livres. Donc, j'en ai deux sur le bureau là que je touche en ce moment même, mais il y en a plusieurs. Alors on va peut-être commencer d'abord par L'Imposteur.
On peut.
Tu veux nous en parler un petit peu ? Alors c'est là, moi j'ai le premier devant moi, mais c'est une trilogie.
C'est une trilogie, oui. C'est une trilogie, on va dire une aventure fantastique, psychologique, urbaine, fantasy, contemporaine.
Pas mal de choses.
Et avec un peu de mystère, un peu de comédie. Et ça traite le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas si tu sais
oui.
ce que c'est.
Mm-hmm. Oui, très bien. Oui.
On le connaît bien celui-là. Hein.
Ouais.
Et c'est cette petite voix qui nous dit qu'on est capable de rien en fait.
Que tout ce qu'on a réalisé, bah, c'était pas nous, c'était l'œuvre des autres.
Et ce qu'on veut faire, on n'en est pas capable, etc. Moi, je suis très sujet à ce syndrome. Je n'ai pas le syndrome de la page blanche comme le protagoniste de cette histoire. Par contre, j'ai un syndrome de l'imposteur vachement développé et ça m'a permis d'en faire une petite thérapie. Et donc, je me suis dit, cet imposteur finalement qui va détruire toutes les impulsions de vie, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui opposer justement la vie et l'imagination. Donc c'est un roman gavé d'imagination et qui pullule de fantaisie et de...
Tout ce qu'on peut s'imaginer dans ces moments-là.
Exactement, parce que c'est une histoire qui se passe à deux niveaux de réalité. On suit un écrivain bloqué qui essaye de se débloquer par une thérapie. Et en parallèle, on va voir les aventures, les 1000 aventures de son inconscient qui va essayer de libérer son monde intérieur de l'emprise de 3 dictateurs.
Waouh !
Voilà.
Et pour des gens qui ne connaissent rien en psychologie, ils peuvent bien comprendre quand même, parce que c'est vrai que ça a l'air pointu.
Oui, ils peuvent comprendre parce que c'est simple. C'est finalement, la recette au bonheur, elle n'est pas compliquée.
j'ai le texte sous les yeux et ça dit un peu de façon claire certains trucs. Donc, ouais.
Ben, moi, j'ai lu le prochain livre dont on va parler après et c'est vrai que ton écriture, elle est super fluide et agréable.
C'est gentil.
Et puis, on peut dire peut-être quelle édition ?
Oui, c'est édité aux éditions Hélène Jacob. C'est une petite maison d'édition de Toulouse, toulousaine, qui est spécialisée dans le numérique surtout, mais on peut avoir tous les livres en livre à la demande, comme on appelle, c'est-à-dire que quand on commande un livre, il est fabriqué, il est envoyé directement. Donc les livres sont accessibles dans toutes les librairies de France.
Oui, moi je crois qu'on l'a commandé à la FNAC,
ouais, oui,
et je l'ai eu très rapidement. Ouais.
Et à travers Amazon, je sais de sources sûres, d'amis qui vivent en Espagne et à Chicago, qui ont réussi à l'avoir aussi à l'étranger à travers Amazon.
Et ils ne sont pas encore traduits en anglais quand
non,
même.
Non, 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 mais eux parlent français. Eux parlent français, donc ils l'ont eu. J'aimerais bien l'avoir traduit en anglais, mais il faudra un peu plus de succès.
Et donc il y en a trois.
Alors voilà, le premier, l'imposteur, c'est le premier d'une trilogie. Le second s'appelle Le Passeur et le troisième Le Maître. Et je ne vais pas expliquer les titres parce que sinon je dévoilerai l'histoire. Mais ce sont trois livres qui forment une histoire. En gros, c'est pas une histoire qui commence et qui termine à chaque livre. C'est une histoire qui commence au premier et qui termine au troisième. Et qui est épique.
D'accord.
Voilà. C'est une histoire intimiste, mais épique.
Ça donne envie. Est-ce qu'il y a une partie un peu autobiographique dans tout ça ?
Ah oui, complètement. Du coup, mon premier roman, qui était Les Bourriques, c'était un roman un peu plus timide parce que je me sentais pas capable d'écrire un livre. J'avais trop de respect pour la littérature. Je me suis dit que si j'écris quelque chose, je vais salir la littérature. Donc, je me suis pas trop dévoilé dedans.
Ce fameux syndrome de l'imposteur.
Exactement. Et je me suis pas trop dévoilé dedans, malgré le fait que ça se passe chez moi, dans mon village, avec une histoire qui est très inspirée de l'histoire de ma famille et des personnages qui ont tous une petite partie de moi. Par contre, le Insight, la nouvelle trilogie, c'est totalement, totalement inspiré de moi. Là, je me suis lâché, j'ai pas eu peur de me dévoiler dedans. Alors, c'est caché, il faut lire entre les lignes, mais...
Il faut te connaître peut-être un peu.
Oui,
en vrai.
Il faut me connaître parce que c'est avant tout un divertissement. Hein. C'est une histoire avant tout de quelqu'un qui va essayer de se débloquer, qui va vivre mille aventures. Donc, avant tout, le plaisir du lecteur. Et après, oui, ceux qui veulent réfléchir, ils trouveront.
C'est aussi quand on crée quelque chose, ça vient toujours un peu de nous, même que ce soit de l'improvisation, du théâtre, du cinéma. Il y a toujours. On y distille des petites choses malgré nous. Et du coup, tu nous as parlé de ton premier roman. On l'a fait à l'envers. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Donc, le premier roman, c'est donc Les Bourriques, toujours des mêmes éditions, Hélène Jacob. Et alors là, c'est un tout autre sujet, mais donc il y a quand même ce côté. Donc, ça se passe dans le Lauragais.
Exactement.
Moi, je suis là, je l'ai lu.
C'est un tout autre sujet. On a même presque l'impression que c'est un tout autre écrivain, d'ailleurs, parce que c'est une comédie, c'est un vaudeville qui pourrait d'ailleurs être très bien adapté au théâtre. On y travaille, d'ailleurs, soyez en passant. Et ce livre-là est presque plus d'actualité que l'autre. L'autre vient de sortir, ça fait un mois et demi qu'il est sorti, mais celui-ci, maintenant, on est en train de travailler à son adaptation cinématographique. Et avec l'agence Hippolyto de Toulouse.
L'agence avec laquelle grâce à laquelle on s'est rencontrés.
Exactement.
On leur passe le bonjour.
Avec laquelle je travaille très souvent, quasiment quotidiennement d'ailleurs. Et ils ont beaucoup aimé le projet et le délire qu'il y a derrière le projet, le délire de production, on va dire, parce qu'on veut, essayer de produire ce film en s'affranchissant un petit peu de l'emprise de Paris. Et d'essayer de montrer que dans le Sud, on peut faire des films et les distribuer et les rendre rentables. Pas forcément devenir riche dans un premier temps, parce que là, je pense qu'il faut compter sur la France entière, mais le but, c'est de le produire nous-mêmes avec des gens d'ici, avec des techniciens d'ici, avec des moyens d'ici, même de l'investissement d'ici. De le distribuer nous-mêmes. On voudrait remettre en place un cinéma itinérant qui amènerait le cinéma aux gens dans toute l'Occitanie. Donc on a choisi un peu les villages de plus de 1500 habitants et on va organiser toute une tournée du film dans un premier temps, en plus des cinémas.
Je viens de voir qu'il y a Montolieu qui a abordé « Je valide
». Tu connais bien ?
Oui, je suis déjà allée. C'est vraiment un village d'artistes.
Oui. C'est le village du livre, d'ailleurs. Et du coup, voir si ce modèle-là fonctionne, arriver à se faire reconnaître. Si jamais on arrive à faire un peu de bruit, forcément, c'est là qu'éventuellement Paris nous appellera et distribuera un peu plus nationalement et qu'on assoira un petit peu le petit nom qu'on va se créer avec ça, quoi. Mais voilà.
On peut peut-être raconter l'histoire parce qu'elle est chouette, c'est une vraie comédie à la fois, il y a beaucoup d'émotions. Donc, tiens, peut-être je vais te laisser la raconter, parce que moi, je pourrais en faire un résumé. J'aurais peur de... Là, j'ai l'auteur à côté de moi, c'est toujours plus de stress.
Alors, moi, j'ai un problème de mémoire. Je ne me rappelle pas.
C'est vrai ?
Non.
C'est l'histoire de Jean, déjà.
Exactement.
Surtout.
Et de Charlotte, sa femme.
Jean et Charlotte, sa femme. Donc, ils sont des... Ils vivent... Donc, raconte, Fred.
Voilà. C'est une histoire... C'est un vaudeville qui tourne autour de problèmes d'héritage dans le Lauragais. Donc, ça se passe à Montferrand, qui est mon village. Et qui se trouve être le centre du Lauragais. Si on prend Montferrand et on trace un cercle de 40-50 km autour, finalement, ça délimite un petit peu tout le Lauragais, ce qui s'appelle le Lauragais. Et du coup, Jean, qui est un agriculteur, se marie avec cette Charlotte, est très heureux, mais a un problème avec ses parents, avec ses propres parents. Qui n'aime pas sa femme. Parce que, à tous les deux, ils veulent révolutionner un petit peu l'exploitation familiale et passer d'une exploitation un peu traditionnelle à du bio et un peu plus respectueux de l'environnement. Donc ça ne plaît pas aux anciens qui viennent de prendre leur retraite et ça va commencer à générer des conflits dans la famille qui font que Charlotte quitte Jean.
Problème d'émancipation un peu du fils avec les parents.
Exactement. Donc, on démarre l'histoire avec Charlotte qui se sépare. Et ce Jean va recevoir, il est à la veille de ses 40 ans, il va recevoir un cadeau insolite.
Pas des moindres.
Et pas des moindres, il va recevoir une poupée sexuelle. Mais qui est étonnante parce que c'est pas de ces petites poupées gonflables, ce sont ces poupées en latex qui sont très ressemblantes à la vérité et à la réalité. Et cette poupée va prendre vie et miraculeusement et chambouler complètement son destin. À travers elle, il va comprendre, par exemple, pourquoi Charlotte l'a quitté, entre autres. Et il faut faire une...
Non, c'est juste...
Et je finis. Et du coup, en parallèle, sa famille lui organise un anniversaire des 40 ans. Et là, on va traiter le vrai sujet du livre, qui est problème d'héritage dans la famille, qui est très étendu dans le Lauragais. Et là, tout va prendre une ampleur incroyable et finir autour d'un, comme il se doit, autour d'un bon repas de famille qui part.
Du coup, il y a un petit côté un peu science-fiction. Enfin, moi, quand je l'ai lu, j'avais un peu ça aussi en tête, le fait de cette poupée qui prend vie. Et donc, il y a vraiment le côté amour, l'humour, le côté action avec cette espèce de poupée qui se réveille là. Et puis, on imagine bien, tout est bien décrit. Les personnages sont... Je trouve que t'as... Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui fait aussi du cinéma, qui travaille avec des acteurs, parce qu'on voit que les personnages sont bien décrits, ils ont un background, comme on dit. On connaît un peu leur histoire et tout. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. Il se lit vite. C'est moi qui lis lentement d'habitude et c'est un peu fastidieux à chaque fois. Ben là, je l'ai dévoré. Bon, après, il y avait aussi le fait qu'il voulait en faire un film. Donc, j'avais tout en tête. J'imaginais qui pourrait jouer telle ou telle personne.
Oui, parce que j'ai proposé un des personnages à Chloé, il faut le savoir.
Oui, bon, on verra. je veux pas y croire encore pour l'instant, mais on croise les doigts très fort pour ce projet. En tout cas, n'hésitez pas à aller lire Les Bourriques et L'Imposteur. Enfin, tout ce que fait Frédéric Thor. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux.
Oui. Il suffit de taper mon nom.
T-O-R-T, voilà. Frédéric.
On tombera sur deux Frédéric Thor, moi et un avocat. Donc, c'est pas l'avocat.
Voilà, c'est l'autre. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Frédéric, d'être venu nous parler un peu de ton travail. Je pense qu'on te rappellera peut-être un de ces quatre quand le projet du film aura avancé. Et puis, peut-être pour d'autres livres. On ne sait pas, vu que tu n'as pas la page blanche, il y en aura d'autres.
Mais il y en aura
a d'autres. A priori. Donc, n'hésitez pas vraiment à lire ces deux... C'est 2, 3, 4, du coup en tout, il y en a combien des livres que tu as écrits?
4.
4, voilà, c'est ça, les 3, la trilogie et les Bourriques, voilà. Je ne voulais pas dire de bêtises.
Et bientôt la suite des Bourriques.
Ah, voilà. Intéressant.
Mais merci de m'avoir invité.
Ben, merci à toi Frédéric, est-ce qu'on enchaîne avec autre chose ou c'est la pause musicale? La pause que Frédéric a choisie.
Frédéric a choisi en plus.
Ben, parfait, ben, Frédéric, tu vas nous parler de la chanson que tu as choisie, que tu nous as mis...
Alors, c'est une chanson qui a à voir un peu plus avec le livre Les Bourriques, parce qu'elle y est mentionnée dedans. C'est un ami à moi, Deverid, un artiste d'Ariège, qui chante. Elle s'appelle Le Progrès et parle un petit peu de ce conflit de génération qu'on peut avoir entre les anciens et les nouveaux. Et comme quoi, finalement, les écrans, c'est peut-être pas aussi bon que ça. Voilà.
Super, on écoute ça.
Ses terres et cueillait ses propres fruits. Mon grand-père savait se taire quand un ancien parlait devant lui. Mon enfant cultive son image et son apparence le domine. Il pense que sans son maquillage, il n'aurait pas une aussi bonne mine. Mon grand-père ouvrait des livres et marquait les plus belles pages qu'il me lisait au pied du lit. Je m'endormais, l'esprit bien sage. Mon enfant allume la télé, des bêtises remplissent sa tête. Pour lui, c'est la réalité, sa créativité s'arrête. Mon grand-père se soignait avec les plantes de son jardin. Jamais il se plaignait quand il récoltait son teint. Mon enfant ne guérit pas sans aller voir le médecin. Mon enfant n'a pas le temps d'avoir un mois de vie plus sain. Le progrès, le progrès. Mais dites-moi dans quel sens, c'est quoi le projet, l'humain doit rester au cœur de la danse. Mon grand-père savait ce qu'il mangeait, car tout venait de son village, sa maison était bien rangée.
Y'avait pas grand chose dans ces bagarres. Mon enfant connaît toutes les marques, mais ne connaît pas les aliments. Pendant qu'il mange du glyphosate, on lui sert des pubs sur un écran. Mon grand-père envoyait des cartes postales quand il voyageait. Il mettait quelques fleurs dans un bocal pour séduire sa beauté. Mon enfant envoie des cœurs à travers son clavier et se balade sur Tinder pour trouver sa moitié. Il connaît une photo avant de connaître un sourire. Il connaît son cadeau avant d'ouvrir. Le progrès, le progrès. Mais dites-moi dans quel sens, c'est quoi le projet, le projet. L'humain doit rester au cœur de la danse. Mettait son vinyle assis au bord du feu. Dans les périodes difficiles, la zig le rendait courageux. Mon enfant consomme ce qu'on lui donne. Internet crée le hit, les mêmes mots sur les ondes, les mêmes thèmes, les mêmes clips. Mon enfant se complique dans le surplus et l'abondance. Construit des mers de plastique qui font plus de trois fois la France. Mais c'est pas grave, passons, on va trouver du réconfort dans la surconsommation, notre conscience s'endort. Mon grand-père a vu petit à petit toutes ces multinationales nourrir leur grand appétit à travers l'esclavage mental. Mon enfant dit tous les gros mots passant en sourd le net. L'humain devient un robot, les grandes industries nous allaient. Allez, allez. Car mon grand-père a un cœur qui bat, mais mon enfant aussi. Alors malgré tout j'y crois, oui j'y crois. Tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de la vie. Le savoir se passe pour pas que l'espoir s'efface. Le savoir se passe pour pas que l'espoir s'efface. J'y crois tant qu'il y a de la vie.
Bonjour Pascal, bonne année 2024.
Bonjour à toute l'équipe, bonne année à toutes, bonne santé, plein de belles choses à nous faire découvrir encore tout au long de cette année.
Coucou Pascal, cinéma, bonne année aussi, on est toutes là.
En théâtre, en musique. Et moi je vais vous parler aujourd'hui d'un roman que j'ai lu il y a quelque temps déjà, qui était sorti en 2022, mais dont le poche va sortir là le 24 janvier, je pense. Donc voilà, c'est l'occasion, parce que des fois, c'est aussi bien d'acheter les livres en poche, c'est quand même bien moins cher. Donc je vais en profiter donc pour vous parler de Darwin. Darwin, ça s'écrit D-A-R-W-Y-N-E, c'est un prénom. Et c'est un roman de Colin Niel, qui a été édité au Rouergue en 2022. Donc Colin Niel, qui est un auteur qu'on connaît aussi par le cinéma, parce que il a un roman qui a été adapté par Dominique Moll. Alors Vanessa doit être au courant, ça s'appelait Seules les bêtes.
Oui, tout à fait.
C'était un superbe film et qui était déjà un super roman. Donc c'est un auteur un peu atypique. Hein. Et cette histoire ne l'est pas moins, puisque ça raconte l'histoire de Darwin Massili. Ça se passe en Guyane. C'est un petit garçon qui a 10 ans. Il vit dans un bidonville appelé Bois Sec, qui est à la lisière de la forêt amazonienne. Et c'est peu dire que Darwin n'est pas un enfant comme les autres, parce qu'il a une allure et un visage étrange, une démarche qui ne l'est pas moins, parce qu'elle est provoquée par une malformation des pieds. Et il a une vie des plus chaotiques dans cette cabane de planches et de tôle, sans eau, sans électricité, en compagnie de la belle Yolanda, sa mère, personnage très important du roman. Alors cette maman, elle collectionne les amants. Et ces hommes, lui, il les qualifie de beau-père. Il en a connu 7 déjà. Et un jour ou l'autre, ils ont tous disparu, comme par enchantement. Et quand le roman commence, le 8e beau-père vient de débarquer à Bois Sec. Alors pour Darwin, c'est un de plus qui lui vole sa mère. Sa mère, puisqu'il faut en parler, c'est la belle, la forte, la courageuse Yolanda. C'est une véritable adoration pour cet enfant. Mais elle ne lui donne absolument rien en retour. Aucune tendresse, aucun geste maternel. Elle le considère même comme un animal. D'ailleurs, elle l'appelle Petit Pian. Et pour ceux qui savent ce qu'est un pian en Guyane, c'est un affreux petit marsupial, et c'est pas un compliment du tout, je vous l'assure. Elle l'humilie avec une férocité glaçante, et pourtant, lui, il continue à l'aimer éperdument. Alors, lorsque un signalement à la protection de l'enfance envoie une éducatrice qui s'appelle Mathurine à Boissec, avec cette menace qui plane de l'enlever à sa mère, Darwin prend peur. En fait, il y avait eu une précédente évaluation qui avait été confiée à une collègue, mais sans résultat, mis à part le départ précipité de l'employé en question, et on ne sait pas pourquoi quand le roman commence. Alors, que se passe-t-il réellement à Boissec? Pourquoi ne retrouve-t-on pas les traces des beaux-pères? Qui est cet enfant étrange? Quel lien particulier a-t-il avec cette forêt? Parce que l'histoire est là aussi. Le prénom de Darwin, choisi par l'auteur, n'est pas choisi par hasard, hein, c'est une référence à Darwin. Et ce sont toutes ces questions auxquelles va devoir répondre Mathurine. Mais pour cela, il va falloir qu'elle approche Darwin. Et lui, il se débrouille toujours pour lui filer entre les pattes. Jusqu'à quand et pourquoi? Voilà, c'est toute l'histoire du roman. Alors, je le disais, pour ceux qui connaissent déjà Colin Yale, bon, c'est un auteur qui est virtuose en roman d'atmosphère, hein, donc on lui doit Seules les bêtes, mais aussi Entre fauves, et ils ne seront pas étonnés d'être plongés dans cet univers de la forêt équatoriale. L'auteur excelle à en faire sentir la présence, les vibrations, le grouillement, les respirations. Mais pour ceux qui le découvrent, Colin Yale fait vraiment partie de ces auteurs singuliers, dont on apprécie vraiment l'originalité et l'inventivité des histoires. Alors c'est davantage du roman noir que du polar, et c'est surtout une ode à cette nature sauvage. L'auteur est ingénieur agronome au départ, il a aussi vécu en Guyane, je pense qu'il aime profondément la forêt amazonienne, et cette forêt, finalement, on connaît très mal, elle se prête à tous les fantasmes, à tous les récits, parfois à la limite du fantastique aussi, ce qui est un peu le cas pour ce roman. Peu, mais quand même, il y a une petite part de fantastique. Et quelque part, Darwin, il reprend le mythe de l'enfant sauvage aussi, car il est rejeté par les humains, et il a tissé des liens très particuliers avec cette forêt, une relation intime, presque magique, et il s'y réfugie de plus en plus souvent, à l'abri de ce monde qui ne le reconnaît pas, qui ne l'aime pas. Et le mystère du livre, il est là. Dans l'énigme de cet enfant si particulier, alors tour à tour merveilleux et monstrueux, vous verrez pourquoi aussi, et c'est le symbole peut-être d'un lien perdu avec le monde sauvage, voilà, visible, invisible. Alors Colin Yale nous étonne encore une fois avec ce roman puissant, inoubliable, que je vous encourage à lire. Donc il sortira en poche dans l'édition Le Livre de Poche le 31 janvier prochain. Voilà, donc c'était mon conseil de lecture le premier de cette année, donc.
Alors, rappelle-nous, c'est Darwin de Colin Yale, c'est ça?
De Colin.
Colin.
Miel.
Colin Miel, merci.
Voilà, N-I-E-L.
C'est pas anodin ce choix de prénom, je pense, maintenant que tu nous as raconté l'histoire.
C'est vraiment, il y a une référence à Darwin, et puis bon, en lisant le livre, vous comprendrez pourquoi. Donc, c'est vraiment un très très bon roman. Moi, je l'avais acheté, puis je l'avais pas lu tout de suite. Et j'ai eu tort, parce que c'est vraiment un très très bon roman, donc je vous le conseille aujourd'hui, et je profite voilà du fait qu'il sorte un livre de poche. Donc l'actualité littéraire pour ce mois de janvier, chez moi, à Montgiscard, et dans la région, c'est le Salon du Livre de Montgiscard, donc c'est le premier salon de l'année dans la région, il a toujours lieu au mois de janvier, et donc cette année c'est le dimanche 21 janvier, donc dimanche prochain. Et en 2024, donc, il fête son 20e anniversaire. Donc, on attend une cinquantaine d'auteurs, adultes et jeunesse, tout genre confondu, hein, parce que c'est un salon généraliste, mais qui attire beaucoup, beaucoup de monde. Le salon est organisé par une association très dynamique qui s'appelle Le Livre d'Hiver. Et voilà, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les auteurs invités, sur les programmes des tables rondes, parce qu'il y a des tables rondes qui émaillent le salon tout au long de la journée. Alors moi, j'en animerai une autour de l'eau, que j'ai intitulée « Histoire d'eau ». Et voilà, on recevra trois auteurs, dont Agathe Portail. Je pense que je vous avais présenté « Les âmes torrentielles » qui étaient sorties en début d'année 2023. Là, donc elle sera là. On va parler de ce livre. On va parler aussi d'un livre sur le canal du Midi, « Un autre sur Venise ». Voilà, quelque chose autour de l'eau. Donc voilà, on a le livre d'hiver a une page Facebook et un site internet. Donc si vous voulez plus de renseignements, ben, vous allez sur le site ou sur la page Facebook du Livre d'Hiver et vous en saurez plus sur le Salon du Livre de Montgiscard.
C'est toute la journée le 21 ?
C'est toute la journée, oui. Ça commence à 9h le matin, ça finit à 18h le soir.
D'accord.
Donc c'est assez concentré. C'est un salon qui est très très vivant. Il y a vraiment l'an dernier on a reçu 700 personnes dans la journée, donc ça défile pas mal. Par la médiathèque, j'organise un prix jeunesse, donc il y a une remise du prix jeunesse parce qu'il y a des auteurs jeunesse, voilà, qui est remis par les enfants de l'école. Enfin, il y a plein d'animations tout au long de la journée, et les auteurs sont très abordables, ils discutent très facilement avec les gens, ils adorent ça quand il y a beaucoup de monde comme ça, c'est vivant, c'est agréable, et voilà, et puis c'est un peu en zone, on va dire, semi-rurale, donc c'est une incitation à la lecture et à la culture pour les gens qui ne sont pas tous sur Toulouse.
Ça fait du donc, bien, la verdure.
Voilà, c'est ça, donc moi je vous invite à vous déplacer si vous en avez l'occasion.
Le message, c'est tous à Montgiscard.
Lecture verdure.
Oh, voilà, pas mal, c'est j'aime
ça.
Beaucoup.
Ah, c'est bien ça, lecture verdure.
Lecture verdure à Montgiscard le 21 janvier prochain. Voilà, j'ai fini ma chronique pour aujourd'hui.
Merci Pascal.
Merci Pascal.
Merci.
Je pense que la prochaine est dans 15 jours, donc je vous ferai un peu le bilan du salon.
Parfait.
Je vous dirai si on a eu beaucoup de monde. Et peut-être je vous y verrai, donc. Donc, à bientôt peut-être. Bonne fin d'émission.
À bientôt.
Et on se retrouve dans merci. Une quinzaine de jours. Au revoir.
Au revoir, Pascal.
Et ça fait pas mal de livres à lire, hein. On
ouais,
va s'y mettre.
Ouais, je pense qu'avec le, ouais, complètement aller,
hein. Entre Frédéric et les livres de Frédéric. D'ailleurs, on n'avait pas parlé des couvertures.
Colonial. Oui, non, joli. On en reparlera. Les couvertures sont très belles. Ah, je crois que c'est à ton tour, Vanessa.
Oui.
Tu reviens d'une rivière perdue, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est une série qui s'appelle Rivière perdue qui arrive sur TF1. Alors, à l'heure actuelle où on parle, nous, on est le 10 janvier, donc c'est demain. Mais vous, quand vous entendrez l'émission, il y aura déjà les deux premiers épisodes qui seront passés. Et de quoi parle cette série ? Eh bien, c'est sur une route sinueuse des Pyrénées. Un spectaculaire accident de voiture s'avère miraculeux. La réapparition d'Anna, une ado disparue il y a 5 ans. La capitaine Alix Berg et le commandant Baltus sont déployés aux côtés de Victor Ferrer, le chef de la gendarmerie locale, pour se lancer dans une course contre la montre. Retrouver la trace de Lucie, une jeune fille enlevée en même temps qu'Anna et qui, elle, n'a pas réapparu. Et c'est l'adaptation de la série espagnole La Casa Monte Perdido.
C'est suspense, alors beaucoup de...
Oui, thriller, drame, policier, thriller, vraiment dans cette veine-là. Et en plus, avec un sacré casting. Je ne vais pas mentir, on ne boude pas son plaisir parce que, en lieutenant Alix Berg, nous avons Barbara Cabrita, en capitaine Victor Ferrer, Nicolas Gobb. Vous avez, en tant que Baltus, le commandant Eric Baltus, Jean-Michel Tinivelli, et dans les rôles des mamans, puisque vous savez, il y a les petites filles qui ont disparu, Anna et Lucie, et dans les rôles des mamans, vous avez Odile Villemin, qui est la maman d'Anna, et Anne-Lise Esme, qui joue Nathalie Pérez, la maman de Lucie. Et bien sûr, s'il y a des mamans, il y a aussi des papas. Et dans le rôle du papa de Lucie, vous avez Bruno Debrant. Et dans le rôle du papa d'Anna, vous avez Kamel Belghazi. Ah, vous avez d'autres personnages que vous découvrirez tout au long de la série. Mais c'est vrai qu'on suit cette enquête avec grand plaisir à se demander ce qu'il a pu se passer il y a 5 ans pour que ces deux petites filles disparaissent et réapparaissent miraculeusement 5 ans plus tard, après un accident de voiture. Alors, c'est vrai que le début nous met tout de suite dans l'action. On voit, par exemple, il y a une scène très forte où on voit justement la voiture qui a atterri dans un ravin avec donc un cours d'eau. Et ils sont obligés Barbara Cabrita et Nicolas Gobbe, de plonger dans la rivière. Ils vont sauter d'hélicoptère, plonger dans la rivière pour atteindre cette voiture et vérifier s'il n'y a pas la deuxième petite fille à l'intérieur.
D'accord. C'est français alors, c'est une série
française.
Oui,
c'est français, c'est Rivière perdue, ce sera sur TF1. C'est une série en 6 épisodes. Donc le 11 janvier, il y aura les deux premiers épisodes. Le 18 janvier, il y aura le troisième et le quatrième épisode. Et le 25 janvier, eh bien, vous aurez le dénouement, le cinquième et le sixième épisode. Et croyez-moi, moi, j'ai vu les épisodes les uns après les autres. Et en fait, on m'avait envoyé que les 5 premiers épisodes la première fois. Et je vous assure, je tapais des pieds. Je disais, c'est pas possible. Je veux la suite. Heureusement, on me l'a envoyé et j'ai pu tout découvrir. En plus, moi qui suis une ancienne gendarme, j'aime beaucoup découvrir, essayer de mener l'enquête, voir qui sont les protagonistes, qui sont les personnages qui sont au centre de l'action et ceux qui sont coupables de ce rapt. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé avec les petites filles. Voilà.
Je savais pas que tu étais ancienne gendarme, j'apprends ça.
Eh ben si,
en direct.
Tous les jours.
Tu savais, Tiffany,
oui. Gendarme. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis allée à Paris Manga avec elle.
Pourquoi?
Petite anecdote, parce qu'on devait se retrouver à l'hôtel et en fait, quand je l'ai vue, elle était le gendarme, donc les mains derrière le dos, comme ça, en train de regarder. Et je me suis dit, si je m'approche d'elle, elle va me contrôler. Elle va contrôler mes papiers.
Elle
a quelques réflexes.
Gendarme un jour, gendarme toujours.
Tu l'as été combien de temps, Vanessa?
5 ans.
Ah ouais, quand même, c'est drôle. Là, vous ne la voyez pas, pour ceux qui la connaissent, elle a un sourire avec des grands yeux bleus et on imagine... Enfin, moi, je n'arrive pas trop à t'imaginer dans l'autorité, un peu dure.
Après, moi, ça ne m'étonne pas. Maintenant que je la connais un peu, que j'ai eu l'habitude de travailler un petit peu avec elle, ouais, ça ne m'étonne pas tant que ça parce qu'on sent cette vibe qui ressort.
Après, elle est maman, donc forcément,
oui,
elle doit avoir un côté adjudant.
Elle a tellement d'anecdotes à raconter. On peut se poser une heure avec un thé, un café et l'écouter.
Veux qu'on continue à parler de toi comme ça?
Non, c'est bon, on va parler de la série.
On dira à Jacques de te faire venir dans un cap-cap.
Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et en plus, les personnages ont des rapports. Il y a des secrets un peu partout. Je parlais de Barbara Cabrita et Jean-Michel Tinevelli. Attends, je reprends.
On dit au revoir à Frédéric Thor comme ça,
On dit au revoir.
Bisous, Frédéric.
Au revoir, Frédéric.
Au revoir, Frédéric.
À bientôt.
Non, si tu pensais partir discrètement, c'est raté. Au revoir.
On dit tout en direct live à nos auditeurs.
Donc, côté secret, oui, il y a le lieutenant Alice Berg, Barbara Cabrita et Jean-Michel Tinevelli, le commandant Éric Baltus, qui se connaissent et qui ont un passif. Et après, il y a les secrets aussi entre les deux familles, en sachant que Manon Castéran, qui est jouée par Odile Villemain, et Nathalie Pérez, Annelise Esme, sont meilleures amies. Les mamans sont meilleures amies comme leurs filles, et les papas, c'est pas... Pardon. Les papas, c'est pareil, s'entendent autant. Et malheureusement, quand il y a eu cette disparition de 5 ans, les mamans sont toujours restées très proches, soudées. Et les pères, se sont un peu tirés dans les pattes. Surtout quand on a dit que c'était lui qui avait enlevé les filles.
Et oui, forcément. J'imagine que même dans ce genre de cas, dans la vie, il doit y avoir des soupçons entre les uns et les autres. Ça doit être horrible à vivre.
Et attention, on nous donne plusieurs pistes. Et il faut les suivre ou pas. C'est à vous de voir. À un moment donné, moi, je peux vous dire une chose. C'est que le protagoniste, celui ou celle qui est vraiment l'auteur de ce rapt, je l'ai trouvé au bout du deuxième épisode.
Ah bon?
Ouais.
Wow. Deuxième,
trop fort. Parce que t'as l'habitude ou est-ce que c'est
évident?
Ouais, je
pense que c'est parce qu'elle a l'habitude.
Rien qu'avec le regard, en fait. Un regard qui se passe entre deux personnes. Et voilà, je savais qui c'était.
Ça veut dire qu'on a des bons acteurs.
Oui.
Voilà, des très très bons acteurs. Franchement, je tiens à saluer la distribution. Et c'était pas évident parce que une adaptation, c'est toujours compliqué. Et je trouve qu'ils en ont fait un très très beau, très très belle série. Moi, j'ai vu la série originale et je peux vous assurer qu'elles sont différentes toutes les deux.
D'accord.
Et que ça vaut le coup d'œil surtout.
Ah, parce que c'est une adaptation, c'est ça que tu
oui,
dis.
Oui, tout à fait.
Trop bien. Ça donne bien envie, t'en parles bien.
Merci.
Ouais, complètement. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais c'est pas grave.
Ça te reviendra.
Ça nous reviendra. Eh ben, avant de lancer ma pause musicale, moi, je vais juste dire un truc. Je pense, Vanessa, enfin, je serais pas étonnée que t'en aies parlé, c'est que hier, je suis allée voir le deuxième volet des Trois Mousquetaires.
Oh là là, oui, il y a longtemps.
Oui, je pense qu'il y a longtemps que t'en as parlé, ouais. Et pour le coup, je vais pas trop m'étendre sur mon avis. Je vais juste dire un truc. J'espère que ça va casser des bouches dans le troisième, parce que je suis très en colère et que mon cœur demande réparation. Voilà, je dirais rien de
plus. Le film, tu veux dire le film avec François Civil et
ouais, Vincent Cassel.
Ah, ils ont déjà fait un deuxième, j'ai même pas vu.
Oui, ouais,
oui, Milady. Ah, il est sorti là.
Ah, ça va vite.
Et hier, c'était le dernier soir.
D'accord, mais le premier est sorti il y a pas longtemps, on est d'accord.
Bah, il y a un an. L'année dernière. Et là, c'est...
Oui, l'année dernière, en 2023, mais il n'y a pas si longtemps.
2023, au début de l'année 2023. Et ah, là, il y a eu le deuxième à la fin.
D'accord.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les livres, il y a trois livres, et les trois livres sont distillés en deux parties. Donc, d'accord. À chaque partie du livre correspond un film. Donc, un livre, deux films. Donc, il y aura six films. Sur les Trois Mousquetaires.
Ah, ben ça va, les acteurs, ils sont tranquilles, là, pour un petit moment, ils n'ont pas besoin de faire du travail.
Normalement, il y aura six films. Et c'est pour ça que la partie Milady, oui, est un peu moins action. Oui, il y a des choses qui ne sont pas. Mais c'est vraiment rentrer dans l'introspection du personnage de Milady.
Ouais.
Et aussi mettre en lumière ce rapport qu'il y avait et... eh bien, un sacrifice qu'on ne s'attend pas à un moment donné. Donc, c'est vrai qu'on cherche une certaine personne pendant tout le long du film. Et après, malheureusement, eh bien, il se passe ce qui se passe. Ne pleure pas, s'il te plaît.
C'est d'ailleurs, la scène est terrible à regarder. Enfin, moi, je l'ai trouvée terrible à regarder. Enfin, moi, après,
la scène est terrible, mais on se doute. On se dit, il y a eu ça. Donc, et puis après, il y a une très, très belle scène. Moi, je trouve que... mince, j'ai mangé son nom.
D'Artagnan, Athos, non, Porthos, non, Aramis, non, Madeleine. Non,
stop. Oui, je trouve que Eva Green, quand même, en Milady, ça vaut vraiment le coup.
Je suis d'accord, elle envoie.
Les cascades qu'elle fait avec François Civil dans une bataille à l'épée. Bah, franchement, chapeau bas.
Oui, c'est eux qui les font vraiment. Et ils
alors, il y a quelques personnes, il y a eu des cascadeurs, mais beaucoup de scènes, ils ont appris à faire de l'escrime. Ils ont eu des cours, ils ont eu pas mal de choses, ils ont appris à faire, à tourner un peu, à faire des genres de petites cascades, parce qu'après, il y a les assurances qui n'autorisent pas quand il y a des gros trucs.
Oui, oui.
Mais par exemple, ils avaient le feu autour d'eux à un moment donné, et c'est vrai. Même si, après, par rapport au film, les effets spéciaux, ils ont grandi les flammes, mais au début, il y avait quand même le feu autour d'eux. Ouais. Donc, c'est vraiment des scènes épiques. Et je trouve que, oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui ont dit, oui, c'était, il n'y avait pas assez d'action, machin, tout ça.
Moi,
oui,
mais c'était... Suffisait.
C'était plus dans le côté, voilà, Milady. Et je pense que les autres films qui vont suivre vont mettre en avant d'autres personnages et apporter encore plus de choses parce que, eh bien, il va y avoir un retour de bâton.
Et puis, il y a ce truc aussi de développer les personnages aussi, pour qu'on soit plus inclus émotionnellement avec eux. Enfin, voilà, c'est après... C'est un film en 2 heures. Bref, sur ce, je lance ma pause musicale qui s'appelle Lost in the Rhythm. Je ne me souviens plus de qui c'est et j'ai découvert dimanche, mais ça, je vous en parlerai tout de suite après. Alors, mal m'en a pris pendant ces vacances, j'ai chopé une gastro, mais ça ne m'a pas empêché de profiter quand même, parce que bah, dimanche, j'ai pu aller voir le grand cirque de Noël de Toulouse, de la Sépierre. Ça m'a fait un bien fou, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été au cirque, et c'est super agréable d'être dans un spectacle bah, assez populaire, dans le sens où bah, voilà, on peut parler pendant le truc, on peut prendre des photos, des vidéos. Enfin, je me suis beaucoup amusée, il y a un petit reel que je me suis amusée à faire sur Instagram. Et bon, je vais juste faire un petit retour rapide, parce que peut-être que j'aurai envie d'en parler un peu plus dans le futur. Le monsieur loyal, c'était Pierre Galibert. Et j'ai beaucoup aimé toute la mise en scène qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il faisait participer le public. Et à un moment, il y a un lancer de cocotte qui se fait, pas une vraie cocotte, hein, je précise, c'est un jouet.
Il va dans le public, parce que j'ai vu justement ouais. sur ton petit montage,
c'est ça, ouais,
que
va
vous
dans
pouvez
le
voir sur l'Instagram de ma préférence d'ailleurs. Ouais. Donc, il va dans le public et...
Oui, il y a un clown, en fait. Il y a un duo de clowns qui vont dans le public. Et... D'ailleurs, les clowns sont anglais. C'est vrai que ça se sent à leur humour, qui est très, très... C'est vraiment l'absurde british. Et j'étais en train de perdre mes notes.
Des artistes de voltige, j'ai vu, c'est impressionnant.
Ouais, c'est impressionnant. Alors, il y avait le jonglage à rebond, c'était de Daniel Derocci. Et c'était super sympa, en vrai, à regarder. Après, il y a alors... Les clowns, c'était, il faut que je reprenne mes notes.
C'était en extérieur parce que
c'était à l'intérieur, c'était dans un immense chapiteau. Et quand je suis venue...
Chauffée, donc.
Ouais, quand je suis arrivée, j'étais impressionnée parce que je me dis, mais à organiser, à mettre en place l'équipe derrière, elle doit être... ça m'a vraiment impressionnée pour le coup de voir tout ça, de me dire, mais organiser, ça doit... Parce qu'on arrive, après il y a des food trucks, il y a pas mal de trucs pour se restaurer. Et c'est vrai que ça, c'est très impressionnant. Le clown, alors c'était la Cognotte Family. Ça, c'était un duo de clowns, c'était très rigolo. La façon dont c'était fait, c'était de l'absurde. Tout était silencieux, forcément, parce qu'ils sont anglais, en fait. Et c'était, c'était beaucoup de l'absurde, beaucoup de jeux avec les. Enfin, c'était. Ouais, il y avait un espèce de dialogue entre je fais un petit peu je fais un petit peu ce que je veux, et du coup, l'autre, ouais, mais non, enfin, j'arrive parce qu'il faut faire les trucs. Et puis, du coup, il dit non, mais je te provoque. Donc, enfin, voilà, c'est un espèce de jeu de chat et de la souris, c'est très rigolo. Alors, la voltige, c'était le Flying Reggio. Ça, c'était la troupe. C'est 3 Australiennes et 2 Brésiliens.
Waouh, ils viennent de loin.
Ah, oui, non, mais il y en a, ils viennent vraiment de loin. Et bah, c'était impressionnant à regarder.
Il y avait des filets parce que on n'a pas l'impression sur la vidéo.
Ouais. Ah, en fait, c'est obligatoire.
Ah, maintenant,
les filets,
c'est obligatoire,
pour le coup. D'ailleurs, pour parler des filets, c'est ma maman qui était avec moi, m'a raconté une anecdote. C'est que petite, elle avait été voir comme ça un cirque et il y avait une trapéziste, donc une voltigeuse, qui était tombée, sauf qu'il n'y avait pas de filet. Et voilà.
Donc, ça a dû arriver, oui, c'est sûr.
Elle s'est pas relevée, donc elle sait pas ce qu'elle est devenue. Il y a apparemment, ils l'ont évacuée, mais aucune nouvelle. Donc, elle sait pas ce qui s'est passé.
Ah, l'horreur quand on assiste à ça. Mais non, ça sert à rien, c'est juste pour faire du show, là. Mettez les filets, on s'en fiche.
Oui, bah maintenant c'est obligatoire. Tout le temps, c'est complètement obligatoire.
C'est, dans tous les cas, c'est incroyable et impressionnant.
Ouais, et là, il y a eu le triple saut, c'est ce que j'ai mis dans le reel, qui était génial, parce que il y avait vraiment un suspense qui a été mis en place, parce que le metteur en scène, le monsieur loyal, la Pierre Galibert, nous a dit, bon, par contre, je vous demande un grand silence parce que je vais avoir besoin, parce que le porteur, parce que c'était un porteur, il a beaucoup de force quand même, il va falloir qu'il puisse donner des consignes claires et tout et précises. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce moment parce qu'en fait, ça m'a, Bah, on l'entendait, en fait, donner ses consignes et tout, genre donner le signal quand est-ce qu'on y va et tout. Genre, et en fait, je trouve que c'était un peu un aperçu des coulisses. Et je sais pas, moi, j'ai trouvé ça super sympa à regarder. Et puis, il y avait le côté suspense. Et c'est vrai qu'on serre un petit peu les dents quand même. Au début, on serre un peu les fesses. Hein. C'est vrai que,
j'imagine, ouais, on doit être en tenue en haleine.
Ah ouais, ouais, on est tenue en haleine. Mais là c'est bien joué hein, pour ça.
Pareil, j'ai vu, il y avait vraiment comme... moi, je savais même pas que ça existait toujours. La dame qui tourne avec les couteaux.
Ah ouais, alors ça...
Ça me ferait peur.
Ça, pour le coup, j'avais vraiment envie d'en faire une émission parce qu'il y a une question qui m'était venue, c'est mais comment tu t'entraînes?
Exactement,
à ce genre de truc. Je pense, est-ce qu'il doit faire...
Et comment t'as l'idée de mettre ta femme sur une roue qui tourne et de lui lancer
c'était
des couteaux?
C'était les Montico Brewer qui étaient à l'œuvre.
Donc, c'est des frères et sœurs?
J'imagine, parce qu'ils parlent pas français, donc je me souviens plus d'où ils viennent, mais ouais, c'était même la mise en scène, elle était super cool. Il y avait un côté un peu bad boy, un peu classe. Il y a tout le truc avec le fouet, c'est impressionnant aussi. Enfin, il y a des mots dans ça, le lancer de couteau. Alors, la magie, c'est Magic et Odvos. Et ce que j'aime beaucoup avec la magie, c'est essayer de trouver où est le truc. Il y avait 3 tours, je crois que j'en ai trouvé un que sur le deuxième. Le premier, c'était comme une boîte, un peu comme les boîtes photo à l'ancienne. En gros, c'est une autre boîte. Enfin, t'as une grosse boîte, il y avait la dame dedans. Et et c'est comme un accordéon, en fait, que tu refermes. Et là, il n'y avait pas d'autre endroit, il n'y avait pas de compartiment. Donc, j'étais en mode, OK, je ne sais pas ce que c'est le truc. Le deuxième, je pense à retrouver, c'était une grosse boîte losange. En fait,
c'était de la magie, en fait.
C'était de la magie, ouais. La dame et la jeune fille étaient rentrées sur le compartiment du haut, donc par le haut. Donc après, c'est le truc où on met les épées et puis on sépare les 2 compartiments. Mmh. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle est juste restée sur le compartiment du haut, en fait, et qu'elle a. Parce qu'ils se contorsionnent, enfin, voilà, ils apprennent, quoi, ils sont formés. Et après, et ben, c'était une espèce de genre de four sur des roues. Alors là, pareil. Et là, il y en a 3 qui sont sortis. Donc, je ne sais pas d'où il les a sortis, mais...
C'est très complet, en fait. Il y a vraiment... C'est un spectacle avec
un spectacle très complet. Ouais, il y avait vraiment de tout. Et là, pareil, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on s'organise à ça? Enfin, comment est-ce qu'on s'exerce à ça, pour le coup? Enfin, je pense notamment à tout ce qui est épée ou fourche, mais je pense que c'est peut-être moins périlleux que les couteaux. Et après, alors, en danse et en chant, on avait... on avait les danseuses et on avait Anastasia Dunich en chant. J'ai pas trop plus d'infos. Il y avait un tour que j'ai beaucoup aimé, c'est les tissus volants. Pareil, des voltigeurs. Donc, c'est de la danse en air. Et donc, c'était le duo Crystal. Et j'ai énormément aimé. C'était très poétique. Ça m'a ému. Ça m'a vraiment ému. Il y avait un côté très soutien mutuel. C'était vraiment super beau à regarder, pour le coup. Ça, j'ai vraiment
vécu. Avec de la musique, j'imagine.
Avec la musique, j'ai eu un joli coup de cœur sur ce tour. Ouais.
J'avais
très
envie
très
d'essayer ça, le
ruban volant.
Le ruban. Et après, je me suis dit, bon, ça va pas le faire. Et donc, on m'a conseillé plutôt les cerceaux volants. À la limite, on m'a dit que pour les débutants, c'est peut-être un peu plus simple. Et il existe des cours à Toulouse.
Ah, ça, c'est bien ça. Ouais. Pour ceux qui ont envie d'être circassiens. Et je sais que dans l'entourage de Toulouse, il y a un local associatif où on peut venir s'entraîner au cirque. On peut faire des résidences d'artistes et choses comme ça. Ça, j'ai plus le nom en tête. Il faudrait que je le retrouve. Et après, il y avait encore une danse aérienne. Alors, c'était Alessia Macaggi, qui est italienne. Donc, pareil, alors, c'est danse aérienne avec une corde. Et là où il y avait une nouveauté, c'était qu'il y avait une piscine transparente. Donc, on voyait l'eau. Et en fait, elle faisait des jeux en... Enfin, ça faisait partie de la chorégraphie où elle allait dans l'eau. Elle,
comme de la sirène, un peu.
Un petit peu, il y a un côté sirène. Moi, il y a un moment dans les airs où elle tourne extrêmement vite et on est là, waouh.
Une natation synchronisée, comme ça, on dit. Non.
Je pense, ouais, il y a un peu danse, de ça, mais danse, ouais, c'est entre ça et la danse. Et pour le coup, ce que j'avais beaucoup aimé, enfin, la proposition, déjà, ça n'a jamais été fait. Enfin, ma mère n'avait jamais vu ça, moi non plus. Donc, je trouvais ça super cool qu'il y ait des idées. Et j'avais beaucoup aimé le petit effet, parce qu'à un moment, elle sort de la piscine et je vois que ses pieds disparaissent, je comprends pas. Et en fait, il y avait de la fumée qui avait été mise et je m'en étais même pas rendu compte. Mmh. Ah non, après, mis à part ça, ouais, c'était vraiment du spectacle, mais c'est du spectacle populaire dans le sens, voilà, on peut parler, on peut crier, on peut. Enfin, ça, c'était super chouette.
C'est quand même
ça,
un show, quoi. Ça me fait penser
à show,
Greatest
ouais.
Showman. Je sais pas si vous avez vu ce film.
Ouais. Oui, Greatest Showman, c'est ça, c'est cet
avec
esprit.
Avec
Hugh Jackman.
Oui. Ouais, c'est ça.
Ouais, et pour le coup, complètement éthique parce que sans animaux. Donc ça c'était super chouette. Et voilà, je pense que ce sera tout pour mon petit bilan de ces vacances.
Mais c'est pas mal.
Et on est dans les temps, c'est ça qui est fabuleux.
Voilà, c'est chouette, on a parlé de plein de choses.
Ouais.
Donc, on va se retrouver avec d'autres choses après. Moi, je vais pouvoir reparler à nouveau de théâtre la prochaine fois. Là, j'avais vraiment envie de recevoir Frédéric.
Ah, il y a plein
de. Contente de l'avoir fait.
Plein de petits spectacles, de trucs que j'aimerais beaucoup aller voir. Il y a un opéra qui m'intrigue beaucoup, c'est Cendrillon, que j'aimerais bien aller voir pour le coup.
Au Capitole.
Ouais, au Capitole.
Ça me plairait bien aussi.
Après, il y a des ballets. Enfin, je me suis un peu renseignée. Il y a plein de choses un peu culturelles que j'ai envie de faire cette année. En plus, j'ai un petit coup de pression parce que j'ai des collègues de ma formation qui m'écoutent maintenant parce qu'ils savent. Et je leur ai donné le lien de la radio.
D'ailleurs, on vous remercie, ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'on aime beaucoup faire cette émission toutes. Et puis avec Léo qui est à la technique.
Il ne faut pas oublier Léo.
Et merci, on va continuer cette année. Si ça vous intéresse toujours, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On a un Instagram, je crois qu'il y a un Facebook aussi.
Et ma préférence 31 pour l'Instagram.
Voilà, si vous avez des envies, des sujets culturels sur lesquels vous voulez qu'on...
Ouais, si vous avez des trucs qui vous avaient marqué, n'hésitez pas. Ah mais complètement.
Pas trop corsé, parce que sinon, moi, je ne vais pas y arriver. Mais...
on t'aidera.
Des sujets quand même abordables.
Le mot de la fin ?
Merci et bonne semaine, bon janvier, bon mois de janvier.
Parfait.
Les
festivals cinéma commencent, donc
Vanessa, je pense que tu vas avoir
du jus de Dieu, là.
Il y en a un là dont tu vas nous parler
plus tard.
C'est
Diam, ouais.
Oui, j'ai parlé de Diam, on a fait une émission spéciale avec Anne-Cat et du coup on a présenté la programmation du festival qui a lieu du 26 janvier au 4 février. Et vous pourrez entendre l'émission très vite, alors je pense aux alentours du 20, suivant si la personne de la technique s'en sort avec l'émission et tous les rires et autres qu'on a partagés avec Anne-Cat. Et après, il y a le festival Cité Ciné à Carcassonne, le festival politique. Et c'est vrai que là aussi, il y a une très très belle programmation. Et ben là, à l'heure actuelle où je vous parle, et ben j'y suis et j'en prends plein la tête parce que il y a de très beaux films et ben je vais aussi vous en parler dans des émissions prévues pour vous donner envie justement d'aller voir ces films.
Super, ben
super, merci.
Ben chouette.
Ouais, je pense qu'on a plein de. Ouais, bah, je pense que cette année s'annonce très très chouette, très très riche. Bah écoutez, merci à vous les filles d'être venu et on remercie Frédéric Thor d'être venu aussi nous parler de ses œuvres dont j'aime beaucoup les couvertures d'ailleurs. Merci à toi Léo pour la technique. Il nous fait un signe du
pouce. Oui, parce qu'on lui a piqué son micro.
Voilà, on lui a piqué son micro. Et le micro est pour la chaise.
Rends-lui son micro.
Côté. Alors, ça va être compliqué parce que je vais avoir du mal à conclure l'émission. Merci en tout cas d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez la retrouver comme toujours sur le site ou sur l'application, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, même si le compte ne vit pas trop, et sur l'Instagram et le Facebook d'Esprit Occitanie. Et on vous remercie à tous d'avoir écouté cette émission, et je vous souhaite une très très belle après-midi, une très belle semaine, et on se retrouve très bientôt. Au revoir les filles.
À bientôt.
Bisous.